Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 18h sur Europe 1. Deux titres majeurs dans l'actualité de ce jour, la crainte d'un embrasement au Proche-Orient, deux attaques anti-israéliennes en moins de 24 heures, deux blessés ce jour, 7 morts hier, les assaillants neutralisés et désormais le port d'armes allégé pour les citoyens israéliens. Est-ce un cas isolé ou le début d'une nouvelle intifada? Le contexte électoral n'y est pas pour rien non plus. Précision dès le début de ce journal avec notre correspondante sur place et notre invité, le docteur en sciences politiques, chercheur à l'IRIS, David Rigoulet-Rose. Sachez aussi qu'à 19h, nous serons avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, Simon Seroussi. L'autre titre, c'est ce nouveau lynchage par la police aux États-Unis. Fait nouveau, l'afro-américain tabassé l'a été par 5 policiers noirs. Outre-Atlantique, c'est une vague d'indignation qui soulève le pays. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce contrôle de police qui a viré au drame? Notre correspondant Nicolas Pinault nous attend avec des informations nouvelles. Et nous serons aussi avec le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Que se passe-t-il avec la police américaine? Human Rights Watch révèle que 600 personnes ont été agressées de la sorte par la police américaine depuis 2017. Dans ce journal également, nous irons à Marseille pour l'épilogue de la guéguerre des ténors du Parti Socialiste. Nicolas Meyer-Rossignol reconnaît sa défaite au profit d'Olivier Faure. Nous suivrons le foot, 20e journée de Ligue 1, OM Monaco ce soir, mais nous irons suivre 3 Lens. Et puis le tennis, connaissez-vous Arina Sabalenka? Première victoire en grand chelem de la jeune Bélarusse. Elle remporte la finale à Melbourne en 3-7 sur la Kazakh Elena Rybakina, 4-6, 6-3, 6-4. La météo, Valérie Darmon.
Eh bien, le temps se dégrade sur le nord-ouest. Le soleil revient entre Gironde et Alsace, mais la grisaille redevient tenace le long de la Manche.
18h15, le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Pas de réforme brutale pour les retraites, dit-il. Serait-il du coup dans la quinzaine prête à ne pas voter le texte? Nous lui poserons la question. 18h30, ça fait débat. La spécialiste de la communication Marie-Virginie Klein et William Tay du think tank Le Millénaire et leur regard sur ces deux actualités à l'étranger. 19h15, Caroline Eliashef. Ne touchez pas aux enfants, dit la pédopsychiatre, à tous ceux, ados, parents, médecins qui consentiraient à ce que des enfants changent de sexe. Elle alerte sur les conséquences terribles et irréversibles qui plus tard peuvent conduire au suicide. 19h30, panorama, la violence des jeunes, plus forte, plus radicale, difficilement contrôlable et compréhensible. Témoignage exclusif dans Panorama et nous accueillerons des professionnels qui tentent, comme ils le peuvent, de concilier et de trouver des solutions. Certains d'entre nous regardent 20 ans en arrière lorsque retentissait au Proche-Orient la deuxième intifada. Le conflit israélo-palestinien est encore plus ancien et toute tentative de paix durable a jusqu'à présent échoué. L'intifada, c'est le stade ultime lorsque tout dialogue politique est rompu, laissant la place aux armes et désormais au terrorisme islamiste. Depuis hier, Jérusalem et les territoires sont en alerte maximale. 2 fusillades en moins de 24 heures, l'une ce matin à Jérusalem-Est, faisant 2 blessés israéliens. Hier, ce sont 7 personnes qui ont été abattues près d'une synagogue. Ariane Ménage, vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 à Jérusalem. Hier, c'était l'attentat le plus meurtrier depuis 15 ans.
Oui, hier soir, d'abord près d'une synagogue dans la colonie de Neve Yaakov. Le bilan est lourd, 7 morts, plusieurs blessés. Puis ce matin, une seconde attaque près de la vieille ville de Jérusalem. L'auteur est un jeune Palestinien âgé de seulement 13 ans. Il a lui-même été arrêté, blessé par balle par un passant armé, selon la police israélienne. C'est en tout cas un regain de violence comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. 2 attentats en moins de 24 heures pendant le Shabbat. En Cisjordanie, les violences sont quotidiennes depuis des mois. Jeudi dernier a été la journée la plus meurtrière. 10 Palestiniens, combattants et civils, sont morts lors d'opérations de l'armée israélienne. Face à ce cycle de violence, en Israël, l'état d'alerte élevé est déclenché. La police et l'armée renforcent leurs effectifs dans tout le pays, mais aussi en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou réunit ce soir son cabinet de défense restreint. Parmi les dispositions envisagées par le gouvernement, l'expulsion des familles d'auteurs d'attaques terroristes et faciliter l'obtention des permis de port d'armes pour les civils.
Merci Ariane Ménage à Jérusalem pour Europe 1 et pour aller plus loin. Nous sommes en ligne avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de cette région du monde. La question centrale, c'est 2 fusillades en moins de 24 heures. Est-ce un cas isolé ou est-ce que c'est un risque d'embrasement qui pourrait directement conduire à une nouvelle intifada?
Une nouvelle intifada, c'est difficile à dire, mais en tout cas un risque d'embrasement incontestablement, parce que la situation est d'une extrême tension. Et donc, effectivement, les derniers événements confirment que cette tension peut dégénérer. Ça s'inscrit dans le prolongement de raids de l'armée israélienne, notamment sur la localité de Jenin, pour empêcher en fait la planification d'attentats. Mais la réponse qui a été donnée à ces raids, évidemment, laisse supposer qu'il pourrait y avoir d'autres débordements de cette nature.
L'assaillant de cette nouvelle fusillade de ce matin avait 13 ans. Est-ce que c'est un élément à prendre en compte ?
Oui, alors en tout cas, c'est le signe qu'il y a une exaspération, un niveau de violence collective, enfin mentale, de la population palestinienne qui rend possible effectivement le passage à l'acte non seulement de jeunes hommes, mais y compris d'adolescents. Donc c'est très préoccupant de ce point de vue-là, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas par ailleurs de perspective réelle. Et il y en a d'autant moins que le nouveau gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, de droite, mais très marqué par l'extrême droite.
Oui, avec une coalition d'extrême droite, oui.
Oui, et notamment avec un ministre de la Sécurité publique. Alors là, c'est bien la Sécurité publique qui est en cause. Itamar Ben-Gvir n'est pas connu pour faire montre de beaucoup de mansuétude dans une configuration comme celle-là.
L'assouplissement justement des règles qui est annoncé pour le port d'armes des Israéliens est-il un danger supplémentaire ?
C'est le danger supplémentaire. Alors, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait une déclaration en mettant en garde les Israéliens, en leur disant qu'il ne s'agissait pas de se faire justice soi-même, que c'était le rôle de la police et de l'armée. Mais en même temps, il y a une dimension un peu parfois pompier-pyromane, parce qu'il donne le ministère de la Sécurité publique à quelqu'un qui est un tenant de la ligne ultra et donc qui ne peut pas passer pour faciliter les choses dans les relations avec les Palestiniens. C'est incontestablement... Il y a un caractère inflammable qui est avéré aujourd'hui.
Il y a ce risque que ça devienne, pardonnez-moi l'expression, le Far West.
En tout cas, il y a un risque que ce type d'attentat se multiplie. Et il est d'autant plus important qu'en arrière-plan, il faut avoir à l'esprit que les groupes qui sont en cause, en l'occurrence le Hamas, mais là c'était plutôt plus spécifiquement le djihad islamique dans le cadre du raid sur Jenin, est évidemment étroitement lié à Téhéran. Et on sait combien la situation régionale est tendue avec l'Iran, non seulement sur la question du nucléaire, mais aussi sur les ingérences, évidemment, supposées dans d'autres pays. Donc cet horizon, effectivement, régional, ne accentue davantage encore les risques de tensions et d'explosions dans le cadre spécifique du conflit israélo-palestinien.
Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et puis, vous noterez aussi, je vous laisse interpréter cela comme vous le voudrez, que la diplomatie russe s'est déclarée profondément préoccupée. Elle a appelé toutes les parties à la retenue maximale après ces attentats perpétrés à Jérusalem-Est. L'autre actualité, elle se passe outre-Atlantique. Tyre Nichols, 29 ans, tabassé par 5 policiers noirs à Memphis. C'était le 7 janvier dernier. Il est mort de ses blessures 3 jours plus tard. La vidéo de cette interpellation a été diffusée ces dernières heures. Et les États-Unis sont sous le choc de la communauté afro-américaine jusqu'au président Biden. De nombreuses manifestations s'en sont suivies dans plusieurs villes. Une zone d'ombre tout de même. Nicolas Pineau, vous êtes notre correspondant à Washington. Ce sont les causes, les circonstances qui restent très floues de ce contrôle routier, de ce qui s'est passé ensuite, juste avant le tabassage.
Tout d'abord, on sait que les policiers mis en cause ont arrêté Tyre Nichols pour conduite dangereuse. Mais première zone d'ombre, la police de Memphis ne parvient pas à accréditer cette thèse. Ni les vidéos de surveillance, ni les caméras piétons sur les 5 officiers mis en cause ne permettent de dire si oui ou non la victime avait commis une infraction. On sait aussi que l'arrestation a eu lieu en 2 temps. Nichols est d'abord prié d'arrêter son véhicule. Il en est extrait par des policiers, mais le jeune homme de 29 ans parvient à s'enfuir à pied. Après quelques minutes de recherche, les policiers le retrouvent et c'est là que les coups s'abattent sur Nichols, qui est finalement maîtrisé. Sur la dernière vidéo rendue publique, on peut voir Tyre Nichols gisant au sol. Au total, 10 policiers sont sur les lieux du drame ainsi que 2 ambulanciers. Mais ils attendent 20 minutes avant de l'amener à l'hôpital. La justice du Tennessee a indiqué que d'autres inculpations ne sont pas à exclure dans cette affaire.
Merci de ces précisions, Nicolas Pineau. Bonsoir, Jean-Éric Branard.
Bonsoir.
Spécialiste des États-Unis, auteur de nombreux livres sur l'histoire de ce pays, vous remarquerez que beaucoup de médias, y compris l'agence France Presse, font le rapprochement avec l'affaire George Floyd. Mais je parle sous votre contrôle, c'est quand même très différent. Ça n'est pas un crime raciste comme celui de George Floyd.
Non, c'est très différent puisque cette fois-ci, les 5 policiers qui ont été suspendus sont tous afro-américains. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler de racisme. En réalité, cette fois-ci, on parle, comme d'ailleurs à l'affaire durant l'affaire de George Floyd, de violence policière. Car c'est ça le sujet, c'est une affaire de justice, une affaire d'équité pour George Floyd. La communauté afro-américaine demandait que la justice passe, c'est-à-dire qu'il y ait une même justice, que la victime soit noire ou blanche et que les agresseurs soient noirs ou blancs. Et cette fois-ci, c'est la même chose. En réalité, la communauté afro-américaine qui manifeste demande déjà à ce que la justice passe de la façon la plus sévère, quelle que soit la couleur de peau. Et dans la communauté américaine, Al Sharpton, par exemple, un des leaders, a dit que le fait même que ces policiers étaient noirs rendait la chose encore plus grave, puisqu'il y a 3 ans, ils se battaient tous pour que la justice soit forte et que le racisme systémique qui était reproché également à cette époque-là arrête de se propager comme il s'est propagé depuis 50 ans.
Mais là, comme vient de nous le préciser Nicolas Pineau, les circonstances de cette arrestation restent extrêmement floues. Alors pardonnez-moi, mais je comprends tout à fait l'émoi qu'il y a aux États-Unis. On est tous émus également de cet abattage. Quand on voit les images, c'est tout simplement effrayant, c'est nauséabond. Mais en l'absence d'informations tangibles sur l'arrestation, on crie justice alors qu'on n'a aucun élément.
On crie justice parce que les images sont insoutenables. Oui. Et comme vous disiez, vous êtes également ému par ces images. En réalité, quelqu'un qui est tabassé, alors qu'il est au sol, alors qu'un policier lui dit « mets tes mains devant » et qu'un autre lui dit « mets tes mains derrière », qu'il ne sait plus quoi faire, qu'on lui dit de se mettre sur le ventre puis de se mettre sur le dos, que les ordres sont contraires, que parce qu'il ne sait pas comment réagir, il est tasé, il lui reproche des coups de pied dans la figure, et on voit son désarroi, il est à 50 mètres du domicile de sa mère, et il crie « maman, maman, maman », un homme de 29 ans, on sent bien qu'il est au bout du rouleau, et les hommes qui le tabassent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ne s'arrêtent pas. D'ailleurs, la chef de la police, Davis, qui est chef de la police de Memphis, ne s'y est pas trompée. Elle a suspendu immédiatement les policiers en disant que quel que soit le crime de cet homme, si jamais il y en avait un, il ne méritait pas cela.
C'est bien d'avoir ces précisions-là, Jean-Éric Branat. Je ne les entends pas beaucoup sur les médias. Donc c'est un... Même, ni vous ni moi n'avons suffisamment d'éléments pour répondre, mais c'est un problème de la police américaine en général. Avant, on disait c'est la police blanche contre les Afro-Américains aux États-Unis. Maintenant, c'est un problème général dans la police. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la police américaine pour qu'il y ait ce genre de choses? Ou est-ce que c'est un tutu personné? Et dans ce cas-là, ça revient, c'est peut-être un cas isolé de ces 5 policiers noirs.
Écoutez, j'ai été beaucoup interrogé au moment de l'affaire Floyd, hein, et je disais déjà ce que je vais vous dire à l'instant, c'est bien sûr, il y a Black Lives Matter, qui est un mouvement afro-américain qui défend la question du racisme qu'il juge systémique contre les Noirs américains, mais en réalité, c'est plus un problème de violence de la police américaine, qui, rappelons-le, l'année dernière, par exemple, a fait 1178 morts, c'était un record, ça fait 3 par jour. C'est énorme. Et c'est ça, surtout, qu'il faut remarquer. Aucune police au monde ne fait autant de morts que celle des États-Unis. La question, c'est pourquoi il y a un problème réel de formation de cette police. Joe Biden l'avait dit pendant sa campagne. Il a fait passer une loi un an après, une loi sur la formation de la police. On se demande pourquoi on a encore une affaire comme ça aujourd'hui. C'est ça, d'ailleurs, qui va être l'interrogation des prochains jours et prochaines semaines.
Eh bien, la question reste en suspens. Merci beaucoup, Jean-Éric Branat, de nous en avoir dit plus sur cette affaire terrible aux États-Unis. L'actualité en France avec 4 camarades de classe de Lucas qui vont être jugés pour harcèlement. Ce jeune garçon de 13 ans, souvenez-vous, s'est suicidé au début du mois de janvier dans les Vosges. La famille dit qu'il était victime de harcèlement en raison de son homosexualité. Ça a été confirmé par la justice. Une marche blanche en sa mémoire sera organisée le dimanche 5 février à Épinal. 18h14, vous restez avec nous. Dans un instant, la fumée blanche au PS, la victoire d'une Bélarusse à l'Open de Melbourne et le foot, bien sûr, avec la 20e journée de Ligue 1. Tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. Le retour de l'actualité à 18h16 et dans l'actualité française, la fumée blanche pour le PS à Marseille. Olivier Faure est réélu comme premier secrétaire après une semaine de conflit sur le résultat du vote avec son opposant principal, Nicolas Mayer-Rossignol. Alors, à la sortie, le premier secrétaire déterminé à rassembler son parti préfère relativiser sur cette confrontation.
Vous savez, c'est toujours compliqué. L'histoire du PS est une histoire qui est faite de congrès qui sont plus ou moins difficiles, avec des moments où c'est plus ou moins tendu. Mais je crois que toutes et tous ont conscience du fait qu'à un moment, c'est l'histoire qui nous porte, celle dont nous sommes les héritiers, mérite mieux que des petits combats.
Voilà, et de son côté, Nicolas Mayer-Rossignol est fier de la candidature qu'il a portée avec la motion Refondation.
Il était important que nous portions dans cette campagne une voix centrale et une voix nouvelle, parce qu'on avait besoin de débats. Je vais le dire autrement, si nous n'avions pas porté Refondation, est-ce que vous seriez là? Est-ce qu'il y aurait eu tant de débats? Est-ce que finalement le Parti Socialiste se serait retrouvé comme il se retrouve aujourd'hui? J'en suis pas certain. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur du Parti Socialiste et nous avons bien l'intention de continuer.
Voilà, ça s'appelle de l'affichage, Nicolas Mayer-Rossignol et Olivier Faure, enfin d'accord pour cette répartition des tâches au Parti Socialiste. Le sport avec d'abord le tennis. L'Open d'Australie a couronné une nouvelle championne un peu plus tôt dans la journée, la Biélorusse Arina Sabalenka. Elle a renversé la Kazakh Elena Rybakina en 3-7, 4-6-6, 3-6-4. Une consécration méritée pour Sabalenka, qui à 24 ans remporte son tout premier tournoi du Grand Chelem, Colin Bral.
Et oui Pierre, c'est tout simplement la joueuse la plus en forme de ce début d'année. 11 victoires d'affilée, donc ce titre tant attendu à la hauteur de son talent. Elle n'a pas le jeu le plus élégant, 1m82, tout en puissance, des frappes lourdes, des échanges courts. Sabalenka a finalement tout réussi jusqu'à son dernier jeu de service où elle n'a pas succombé à la pression.
Le dernier jeu, oui, bien sûr, j'étais un peu nerveuse. Je n'arrêtais pas de me dire, personne ne t'a dit que ça allait être facile. Je me suis dit qu'il fallait y aller jusqu'au dernier point. Oui, ça a été un jeu difficile. Je suis super contente d'avoir été capable de gérer toutes ces émotions et de le gagner.
Et cette pression au service, Colin, c'est bien ce qui bloquait hein, depuis trop longtemps chez cette joueuse.
Absolument Pierre, une image, l'entraîneur de Sabalenka, Anton Dubrov, qui fond en larmes à l'issue du match car le service, gros point faible de la Biélorusse, lui a fait perdre certains matchs et même des demi-finales de Grand Chelem. Un entraîneur qui ne pensait plus pouvoir aider sa protégée, qui était même allé jusqu'à engager un psychologue pour gérer cette pression. Elle a réussi à retenir Anton Dubrov, les voilà aujourd'hui sur le toit du tennis et c'est la première fois qu'un vainqueur sous bannière neutre est couronné à l'Open d'Australie. Pas de drapeau ni d'hymne biélorusse. En cause, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais ça n'a pas gâché le bonheur de la joueuse de 24 ans. Elle sera deuxième à la WTA ce lundi. Elle égale son meilleur classement en ligne de mire, bien sûr, la première place de la Polonaise Iga Świątek.
Merci Colin Abgral. Alors, pas de bannière, pas de drapeau, mais le président Loukachenko est quand même apparu dans une vidéo en portant un toast félicitant sa championne Bélarusse. Le foot avec la 20e journée de Ligue 1. Marseille-Monaco, c'est ce soir à 21h. Vous suivrez ça, bien sûr, attentivement dans Europe 1 Sport. Pour l'instant, c'est 3 qui affronte Lens, Damien Ardoin.
Oui, 62 minutes de jeu et pour l'instant les Troyens qui tiennent leur petit exploit. Ils mènent 1-0 depuis la 49e minute de jeu, un but de Yasser Larroussi après une belle contre-attaque. Troyes qui a ouvert le score sur sa première frappe cadrée. C'est dur pour les Lensois tant les Sang et Or ont dominé toute la première partie de la rencontre. La possession de balle est lensoise, les opportunités sont lensoises, mais il manque ce brin de réalisme et de réussite. Il y a aussi et surtout beaucoup de maladresse à l'approche du but troyen. 63 minutes de jeu, Troyes dans son stade, mais devant 4000 supporters lensois, mène 1-0 face au Racing Club de Lens.
Merci, à tout à l'heure Damien Ardoin, à 3 pour Europe 1. Et puis, puisque je parlais de l'OM qui affronte Monaco ce soir, eh bien, le club marseillais a annoncé un accord de principe avec Angers pour le transfert du milieu marocain Azedine Ounahi. On termine par le ciel, Valérie Darmon, et au nord, c'est le retour des éclaircies.
Effectivement, passé les nappes de grisaille et les brouillards givrants du matin, les nuages bas qui dominent aussi des plaines de Rhône-Alpes et de l'Auvergne au sud-ouest jusqu'au piémont pyrénéen, quelques flocons qui voltigent encore sur le massif central et près des Pyrénées. Au fil de l'après-midi, le ciel se couvre de la Manche jusqu'à la vallée de la Loire, le bassin parisien, les Ardennes. Mais du nord-est au centre et au nord de la Nouvelle-Aquitaine, la journée se poursuit sous une alternance de nuages et de belles éclaircies. Sur le massif alpin et le pourtour méditerranéen, le soleil domine toute la journée. Mistral et Tramontane souffle modérément entre 50 km/h et 70 sur le littoral du Roussillon. Les températures maximales sont en hausse sur le nord-ouest. Il fera 6 à 9 degrés en Bretagne et en Normandie, 8 à 11 sur le pourtour du golfe du Lion, 12 à 14 sur la côte d'Azur et partout ailleurs. L'ambiance reste froide avec pas plus de 2 à 6 degrés, mais quelques belles éclaircies tout de même depuis l'Alsace jusque sur les Charentes.
Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est l'interview politique. Je reçois le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont.